Pour moi, l'aventure à Pont-de-Cance a commencé effectivement en septembre 1971.
Jean-Paul Goidebecq, né en 1941, et Micheline Goidebecq, née en 1949. Entretien du 23 août 2019.
J'ai repris des études en 76. À ce moment-là, je venais de passer les examens d'assistant social. Et le dernier poste que j'avais exercé, c'était au mouvement rural de jeunesse chrétienne des Pyrénées-Atlantiques et du Béarn, plus exactement, sous l'égide de l'association Jeunesse rurale du Béarn. Et donc, jusque-là, je ne connaissais pas Pont-de-Cance. Et c'est au moment où donc j'ai pris ces fonctions que j'ai été dans ces locaux, dans le cadre des formations faites par la Jeunesse rurale du Béarn.
Quel était le contexte?
En septembre, c'était donc la fin des vacances. On était en train de refermer les locaux après les activités de l'été. Et c'était Irène Sartougaris qui m'avait accueilli, qui était un peu l'âme de Pont-de-Cance,
Qui était
qui
cuisinière.
était cuisinière, mais qui faisait aussi beaucoup d'autres choses, puisque c'était elle qui passait tout l'été à Pont-de-Cance. Par contre, les locaux commençaient à être en très mauvais état et des projets avaient été déjà élaborés concernant la réhabilitation de ces lieux ou la démolition pour la reconstruction, parce qu'il fallait effectivement un lieu comme celui-là pour accueillir les groupes de jeunes qui avaient besoin d'un lieu d'accueil. Et la vallée d'Ossau était magnifique pour cela.
Pour vous, c'était la première fois que vous alliez en vallée d'Ossau?
En vallée d'Ossau, j'y étais allé en tant que jeune, quand j'étais au collège de Nailles. Avec les prêtres du collège, on avait fait un camp en vélo depuis Nailles et nous avions été campés au caillou de Socques. Donc j'étais passé dans cette vallée d'Ossau dans les années 50-55, mais je ne connaissais pas les locaux. On allait chercher le lait des vaches à côté, chez les vergers, les vachers. Et on campait sous tente, en fait c'était des vacances extraordinaires déjà. Mais par la suite, évidemment, lorsque les locaux de Pont-de-Cance se sont libérés, les aumôniers ont pu faire des séjours sous abri, même si le confort était très limité.
À l'époque, c'était quels aumôniers à Nailles? Vous vous souvenez?
Alors à Nailles, j'ai eu affaire à l'abbé Justin Laban, qui était déjà venu là depuis 1952.
Donc là, ça consistait en quoi les journées sous la tente?
On faisait le feu pour faire chauffer la marmite. On faisait des promenades. C'est là que j'ai commencé à aller en montagne. Et pour moi qui habitais la campagne, ça avait été extraordinaire de partir en vacances comme ça.
Donc là, c'était des camps de garçons.
Des élèves du collège et qui ensuite, pendant les vacances, grâce à ses professeurs, nous permettaient d'aller passer quelques jours de vacances en dehors de nos familles, où d'habitude on restait, puisque à la campagne, souvent l'été, les enfants y restaient pour aider aux travaux des champs. Et il y avait les foins à faire, il y avait les maïs à biner, comme on dit, garder les vaches, bien évidemment. Par la suite, c'est pour ça que le mouvement de jeunesse a permis aussi à ces jeunes de la campagne de vivre des activités collectives et d'avoir des loisirs et aussi faire de la réflexion. Parce que le MRJC, c'était aussi autre chose que de la détente, c'était de l'éducation. Et là, il y avait des permanents et des permanentes, et c'est comme ça que Micheline était une permanente du MRJC dans les années 70-72. Il était déjà question, en effet, de ces locaux-là qui nous tracassaient beaucoup, parce que Jeunesse et Sport avait déjà manifesté son désaccord. Et donc, Henri Cazaux, il m'avait dit, tu sais, Jean-Paul, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut améliorer ces locaux, on va créer une association avec les anciens, on va demander aux anciens du mouvement de se rencontrer, de façon à ce que ce ne soit pas vous, les jeunes, qui passiez votre temps à aller monter des murs, à faire des cloisons, etc. Et en 72, donc, on a créé cette association Béarn Pont-de-Cance, Jeunesse rurale du Béarn. Et puis, de 72 à 77, cette nouvelle association, que j'animais aussi avec la présidente qui s'appelait donc Michèle Rey, nous avons été à la chasse au permis de construire et à la chasse aux subventions. Donc les chantiers n'ont pu commencer qu'en 77. À Pâques 77, le premier chantier est avec des groupes de jeunes. Le début, il fallait démolir. Alors pour démolir, avec les jeunes, c'était facile.
Le mouvement était passé de la JAC à MRJC, Mouvement rural de la jeunesse chrétienne. On fonctionnait par groupe, c'est-à-dire il y avait les jeunes salariés, les étudiants et les agriculteurs. Il y avait 3 équipes et il y avait le groupe adolescent. Je faisais partie de l'équipe salariée. En 70, on m'a demandé de devenir permanente pour la région Aquitaine pour s'occuper plus particulièrement des jeunes étudiants et adolescents. Mon rôle et fonction, c'était de suivre l'ensemble des équipes, d'en créer, mais aussi d'organiser des séjours de vacances et surtout de réflexion, de formation. Donc on faisait plusieurs stages dans l'année, soit des stages en montagne, soit des stages à Pont-de-Camps. Dès qu'il y a eu le permis de construire, de suite, il y a eu les chantiers de démolition et c'était très festif, très sympathique. Dès que les travaux ont commencé, il fallait quelqu'un pour la cuisine, mais très vite on a démarré les camps. Donc j'ai fait de l'économat. Et puis comme j'avais le diplôme d'animatrice de centre de vacances, puis un petit peu plus tard de directrice, très vite je suis rentrée en fonction. Mais c'est surtout, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est tous les chantiers, cette démolition, c'était quand on voit les carcasses, il ne restait plus que les poutres. Et puis on faisait de grands feux de joie pour brûler tout ce qui était les planches, les matériaux qui ne servaient plus. On a de très bons souvenirs, et même nos enfants ont baigné dans les travaux de Pont-de-Camps. Ils font partie de l'histoire de Pont-de-Camps, enfin pour nous, pour notre famille.
Je crois qu'à partir de 82-83, la première présidente, Michèle Rey, cède la place à Henri Ourcade, qui était une cheville ouvrière très importante des chantiers, lequel cédera la place ensuite à moi-même. Donc j'ai effectivement assuré pendant quelques années aussi la présidence. Ensuite, c'est Odile Ourcade, parce que je tenais à dire aussi que le MRJC, c'était mixte depuis longtemps. Dans notre association, quand même, les femmes ont aussi leur place. Ensuite, ça a été Jean Cazenave. Ensuite, Jean Cazenave a laissé la place à Marie-Pierre Cabane, qui avait été d'ailleurs elle-même présidente du MRJC. Ensuite, ça a été Henri Barruet, sur lequel on comptait aussi, qui allait prendre sa retraite. Et puis Palmiro, qui a assuré jusqu'à la dernière Assemblée Générale, puisque là, de nouveau, une dame a pris la présidence, la personne de Béatrice Chamy.
Et donc là, vous continuez à participer aux commissions?
Par la suite, il a fallu toujours faire des chantiers pour améliorer les locaux, pour les maintenir en état. Et donc, j'ai continué très longtemps, effectivement, à participer au conseil ou à des commissions. Mais là, ça fait déjà quand même un bon bout de temps que j'ai bien évidemment laissé la place. Par contre, j'ai assuré pendant pas mal d'années aussi, l'été, une permanence en tant que responsable ou directeur. Bien évidemment, je suis attaché à cette maison comme quelqu'un pour qui cela compte comme engagement, et puis l'amour de la montagne, les promenades, les balades, tous les sommets environnants que l'on a fait, dans lesquels on a amené beaucoup de gens. La semaine dernière, j'ai retrouvé un couple et la dame se rappelait que je l'avais amené au pic du Midi d'Ossau. Elle me dit, mais j'en ai un souvenir extraordinaire, enfin, ces promenades que l'on faisait. Alors l'amour de la montagne, c'est vrai que Pont-de-Camps, c'est la montagne, une grande passion. Et puis alors, la vie des groupes, bien évidemment, toutes les connaissances que l'on a fait avec des gens venant de différents milieux, parce que Pont-de-Camps a permis de brassage de populations très diverses. Puis il y a des gens qui y venaient par le fait qu'en tant que jeunes, ils étaient venus, parce que pendant la période donc 70, 80, 85, il y a eu encore une vie importante des groupes de jeunes qui venaient à partir du MRJC. Et puis, la grande crise donc, qui avait démarré en mai 68, elle s'est répercutée sur les mouvements de jeunes, et peu à peu, il y a eu une désaffection. La désaffection, elle venait de la part des jeunes, mais elle venait aussi de la part de ceux qui les animaient, qui s'appelaient les aumôniers. Et les aumôniers, beaucoup ont perdu confiance dans le mouvement.
Ça a suivi aussi les crises de l'Église. Hein, c'est-à-dire, le mouvement était très en avance par rapport à l'Église traditionnelle, hein, mais on était reconnu dans l'Église comme un mouvement révolutionnaire, avec les guillemets, parce que c'était après 68, on avait un engagement politique. Nous étions jeunes aussi, comme beaucoup de jeunes de l'époque. Nous avions des aspirations, nous avions des valeurs que nous voulions faire reconnaître.
C'était quoi ces valeurs et ces aspirations?
Eh bien, par exemple, la solidarité, l'engagement politique. Ça faisait partie de la mouvance de l'époque, du bouleversement des mentalités. Les années 70, c'était le grand chambardement à tous les niveaux.
Alors, il y avait aussi, par rapport au monde rural, une aspiration aussi à ce que d'abord les paysans gagnent complètement leur vie. C'était déjà de l'écologie, même si le mot n'y était pas employé. Ils voulaient quand même une agriculture raisonnable, raisonnée. Les circuits courts dont on parle maintenant beaucoup, à l'époque, déjà dans les années 70, ils voulaient qu'il y ait entre les paysans et les consommateurs des liens.
On appelait ça les paysans-travailleurs, c'est-à-dire que tout travail nécessite un salaire, que les paysans soient reconnus, que leurs produits leur permettent de vivre décemment. Faire travailler en priorité les personnes du pays, c'est-à-dire les commerçants. Le miel vient de la Reims, la viande c'est les bouchers et charcuteries de la Reims. Alors après c'est un centre de vacances évidemment, l'épicerie, il y a des livraisons. Mais tous les produits qui peuvent être achetés en circuit court se font.
Le public qui venait à Pont-de-Camps, ça a un petit peu évolué aussi, parce que donc au départ, c'était surtout des groupes de jeunes qui venaient par canton. Et il y avait aussi une aile quand même des vieux chalets, où il y avait quelques familles qui pouvaient venir, des familles vraiment du monde rural aussi, des paysans. Peu à peu, les groupes de jeunes se sont raréfiés. Pour que quand même les locaux soient occupés, on a fait davantage de publicité auprès des familles, ce qui fait que peu à peu, finalement, il y a eu plus de familles que de groupes de jeunes qui sont venus. Par contre, ensuite, les groupes de jeunes ont changé, c'est-à-dire que, comme il y avait de la place, ça a été des centres aérés qui sont venus avec des enfants. Il y a eu des classes vertes, il y a eu des classes de...
d'écologie.
De la nature ayant horreur du vide. On trouve des moyens, sans perdre l'esprit, si possible, de Pont-de-Cambre, et ce qui fait que maintenant aussi, on ouvre à beaucoup de classes ou de lycées aussi, qui viennent passer quelques jours. Ça a été une évolution à laquelle on a été contraint, entre guillemets. Et en même temps, ce magnifique outil, personnellement, j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'il serve, que c'était une chance de pouvoir permettre à des gens de venir là en groupe, avec tout ce qui est important aussi, l'apprentissage de la vie de groupe pour les jeunes. Mais on a toujours vu que, comment c'était important pour les jeunes de quitter un peu leur cocon familial, puis de se confronter à d'autres, avec en même temps un projet, c'est-à-dire on les mettait aussi autour de la table à discuter sur leur vie de jeune, sur, enfin voilà, tout ce qui a été de la formation, tout en étant des loisirs.
Cette possibilité de discuter justement et d'évoquer tous les sujets possibles, ça c'était quelque chose de fort à l'époque, qui perdure?
Je ne sais pas si ça perdure tellement, mais en tout cas, il y avait toujours un projet dans les camps organisés par le MRJC. Il y avait une réflexion, d'ailleurs c'était préparé avec les jeunes eux-mêmes, et puis à l'intérieur du camp, il y avait toujours des temps où on réfléchissait ou sur la vie scolaire ou la vie en famille, avec les relations avec les parents.
Tu parlais des familles, ce qui a été très intéressant à Pont-de-Camps, on n'a jamais voulu une machine à laver la vaisselle. Parce qu'il y a cette participation des gens en vacances qu'on ne voit pas très souvent. On chante tout en faisant la vaisselle et c'est aussi cette sympathie, cet aspect-là qu'il faut noter. Très vite d'ailleurs, moi je constate que les gens s'intègrent rapidement dans les groupes comme ça de vacanciers, même les gens nouveaux. Quand on partait en montagne, on s'inscrit. Mais souvent, on prenait en charge les nouveaux, on leur proposait de venir avec nous. Ce qui fait que les gens, même seuls, ont été très vite intégrés dans le fonctionnement de Pont-de-Camps. Et puis, il y avait ces échanges qui étaient chaleureux, de même qu'on s'était dit, on n'est pas toujours la même table, on va faire connaissance avec les autres. Et le soir, on faisait des veillées. Très vite, d'ailleurs, les gens, ils se livrent quand ils se sentent en confiance. Les gens parlent d'eux-mêmes, de ce qu'ils vivent, de leurs enfants. La cheminée qui était en rond, c'est pas pour rien aussi. Le fait de s'installer autour de cette cheminée, on y a vécu des échanges très très sympas. On retrouve encore des gens qui ont fait eux-mêmes des camps et qui reviennent à Pont-de-Camps avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y a aussi maintenant des conférences. Une fois par semaine, on fait venir un conteur. C'est-à-dire l'aspect éducation populaire continue un peu dans ce sens où on parle montagne, on parle de nos souvenirs, aussi on échange, tiens moi je suis allée là, et c'était en quelle année, c'est la montagne aussi qui nous réunit. Il faut vraiment encore avoir l'amour de la montagne pour aller à Pont-de-Camps, c'est-à-dire aimer quand même la montagne ou l'avoir aimée dans sa jeunesse. Parce que ça ne s'improvise pas quand même d'aimer la montagne, de marcher, un peu le goût de l'effort. C'est quand même des choses qui se transmettent dans des valeurs.
Un souci aussi de Pont-de-Camps, c'était permettre à des gens même pas très fortunés de prendre des vacances.
Au fil donc des 50 ans, vous étiez là, voilà. Dans les échanges, est-ce qu'il y a des préoccupations qui ne sont plus d'actualité ou...
C'est vrai que dans les débuts, on était très très branchés sur la promenade en montagne. Les gens qui venaient, vraiment tous les jours, c'était aller faire un sommet ou le tour des lacs, etc. Oui, c'était vraiment des amateurs de la montagne.
Mais de plus en plus, ils partent en voiture pour visiter. Par exemple, la falaise au Vautour, ils vont aussi en Espagne. Mais ils ne restent pas forcément tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont diversifier les loisirs. Nous, on a connu où les gens venaient que pour faire des balades en montagne. Et puis, peu à peu, on a vu les gens venir en famille, bien sûr, aller se promener ailleurs, ne pas rester à Pont-de-Canse. Ils ont besoin de diversifier un peu leurs activités de loisirs.
Par rapport au rôle que joue Pont-de-Canse dans la vallée, qu'est-ce que vous en pensez ?
Les équipes en place ont fait un pari sur l'avenir, courageux. Ils ont foncé, moi je crois qu'il fallait le faire. Ils ont compté sur les bénévoles encore pour faire pas mal des travaux et ils ont réussi. Et je trouve ça extraordinaire. Donc oui, je suis raisonnablement optimiste sur l'avenir parce que les lieux sont tellement beaux. Enfin, le cadre est extra et l'aménagement des locaux a été fait en sorte que c'est relativement confortable. Ce sera des groupes, ce sera des familles. Pour ce qui est des jeunes et des enfants, ils viendront toujours parce qu'à travers les centres aérés, à travers les classes vertes, les classes de neige, les classes découvertes, il y aura toujours des jeunes qui viendront là-haut. Et pour moi, ça me remplit de joie parce que mettre à leur disposition des locaux, un lieu où ils peuvent s'exprimer, vivre ensemble, c'est un idéal qu'il faut réaliser. On le favorise. Pont-de-Canse le favorise. Longue vie à Pont-de-Canse.